Ségur du Parc.
C'est l'émission issue du partenariat entre le Parc National des Cévennes
et Radio Barthas. Partons à la rencontre de celles et ceux qui font le Parc National des Cévennes.
Je l'ai entre les mains, le deuxième opus du livre Gorges et Rivières. Le premier, c'était entre Causse et Cévennes. Celui-ci, c'est des Cévennes aux Garrigues. C'est sorti il y a quelques semaines et pour en parler, nous sommes avec son auteur, Mathieu Mercier. Mathieu, bonjour.
Bonjour Ben, merci pour l'invitation. Merci à Radio Barthas.
Avec grand plaisir et encore un très très bel objet. On va en parler. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour la réalisation de cet ouvrage?
Donc ce second ouvrage, il couvre le versant méditerranéen. Et donc là, on est confronté déjà à un versant qui est beaucoup plus chiffonné que le précédent, avec une ramification, des cours d'eau très ramifiés, et donc un plus grand nombre de cours d'eau, avec des explorations parfois qui sont rendues plus difficiles, parce que c'est un territoire plus escarpé et plus grand. Donc le territoire, il s'étend depuis le Vivarais-Cévenol, avec les rivières de la Baume, de la Drobie, de la Tine, du Chassezac, de la Borne, jusqu'à la Vis, l'Ar, en passant par les Gardons, l'Hérault, la Cèze. Donc c'est un territoire assez vaste, et la difficulté, voilà, ça a été de couvrir ce territoire large et d'avoir une approche aussi synthétique, que ce soit dans les textes et aussi dans les photos.
Alors c'est très poétique, je trouve, ta manière d'écrire, ce qui fait que ce livre est agréable à lire. Comment t'as procédé un peu pour l'écriture ?
Je dirais qu'il y a plusieurs temps. Il y a vraiment un temps où sur place, pendant l'exploration, je vais avoir un carnet et je vais noter des petites choses qui me viennent à l'esprit. Parce que l'idée, c'est quand même de donner, de mettre en valeur l'âme de chacune des rivières. Et c'est un petit peu comme si chacune des rivières, si on l'écoute, elle nous parle. Et donc c'est la rivière qui se raconte et il faut être un petit peu là présent pour la saisir, pour la capter. Donc voilà, ça, il y a quand même sur le moment... il faut avoir un petit carnet pour prendre des notes. Et puis après, pour avoir cette dimension un peu onirique, il faut aussi se rappeler plus tard et avoir un peu une approche un peu synthétique de la rivière, parce qu'on ne peut pas tout raconter.
Et c'est clair.
Et donc il faut la raconter un petit peu comme on la rêve. Voilà. Et on peut, il y a aussi là l'inspiration de Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, où qu'est-ce qui reste après un passage au bord d'un cours d'eau? Il y a une dimension un petit peu comme ça, vaporeuse, onirique, de la rivière qu'on vient de visiter.
Ton bouquin propose 93 randonnées, 73 lieux de baignade, 77 points de vue remarquables sur les vallées, 101 monuments emblématiques, et des parcours de pêche, des itinéraires de canoë. Mais ce livre, pour moi, il se distingue d'un simple guide touristique ou naturaliste, je trouve. Alors la question peut paraître simpliste ou simple, mais quel conseil tu donnerais aux lecteurs ou futurs lecteurs pour se balader dans ton ouvrage ?
Voilà, merci pour la question Ben. Alors c'est vrai que cette partie-là, on va dire que c'est une partie en plus, c'est le chapitre pour chaque rivière à découvrir. Et donc c'est pour ça que c'est pas simplement un guide. Il y a d'abord le récit de la rivière et à côté on peut aller découvrir cette rivière de façon personnelle, intime, et justement avec des conseils au niveau des randonnées, des lieux de baignade, les lieux de pêche. L'idée, c'est d'abord peut-être de feuilleter le livre et puis de voir si on est appelé par certaines photographies, par certains textes. Et ensuite, puisqu'il y a pour chacune des rivières une carte, eh bien on peut suivre le récit avec cette carte. Et puis si on est intéressé, aller voir dans les onglets qui s'y prêtent si une randonnée nous intéresse. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Si on a envie de visiter une baignade, ou simplement d'aller jouir d'un panorama, puisque également sont indiqués les panoramas et les sites remarquables, que ce soit les monuments ou les points de vue remarquables.
Évidemment, il y a plein d'espèces, il y a les oiseaux, il y a vraiment plein de choses. Je pense qu'on ne va pas pouvoir parler de chaque espèce, lisez le livre, auditeur, auditrice. Mais il y a un beau chapitre sur la loutre, notamment, qui a été mal perçu, si j'ai bien compris, pendant des années, en fait. Et il y a plein d'idées reçues sur la loutre, notamment le fait que ce n'est pas elle qui fait disparaître les truites, par exemple.
Bon, c'est sûr que la loutre, elle va avoir une consommation de poisson qui est importante. Localement, ici, on se rend compte qu'elle a aussi un effet sur des populations d'espèces invasives qui étaient donc les écrevisses américaines. Et donc, ça va être vraiment facile de remarquer la présence de la loutre grâce à ces carcasses d'écrevisses. Donc, elle a aussi ce rôle de régulation. Et puis, on peut quand même envisager que la truite va s'attaquer aux poissons qui sont un petit peu les plus faibles ou les plus faciles, les proies les plus faciles. Dans tous les cas, la loutre, c'est aussi un emblème des rivières, c'est un emblème qui montre la bonne santé écologique d'un cours d'eau. Et c'est vrai que longtemps, même l'État donnait des primes pour la chasse de la loutre. Et aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt dans la préservation. Et puis, si on doit parler d'une autre espèce emblématique, c'est le castor. Hein, le castor, on va dire au début du siècle dernier, il était vraiment complètement en voie de disparition dans les vallées cévenoles et spécialement sur le versant atlantique. Et il n'en restait plus qu'au niveau de la rivière Rhône. Et il y a eu une réintroduction par le parc national et puis ensuite une recolonisation naturelle où maintenant, qui a été vraiment efficace. Et maintenant, on rencontre des castors partout, et c'est aussi un animal emblématique, et on a besoin aussi, pour sensibiliser le grand public, d'animaux comme ça, emblématiques de la santé des cours d'eau. Et puis, à savoir que, si on regarde, il y a beaucoup de rivières dans les Cévennes qui s'appellent Vébron, Vibré, etc., qui est l'ancien nom du castor, et ça veut dire qu'il y avait des castors à peu près partout.
Parlons un peu du tourisme. Est-ce que le tourisme est un danger pour notre région, selon toi, ou est-ce que tu as l'impression que les gens sont de plus en plus respectueux de cette nature qui nous entoure ?
Alors, en effet, le tourisme, c'est une question qui est, on pourrait dire, ambivalente. Aujourd'hui, c'est très à la mode, et c'est parce qu'on le subit, il y a ce phénomène de surtourisme qui est évoqué un peu partout sur la planète et qu'on peut aussi ressentir ici. Pourquoi je parle d'ambivalence ? C'est qu'il ne faut pas oublier que beaucoup des auteurs qui ont écrit sur la nature et les cours d'eau, en l'occurrence, et là je pense par exemple à Martel, mais aussi à Élisée Reclus, étaient des gens qui faisaient la promotion du tourisme. Et on peut voir que dans une certaine mesure, le tourisme a eu des effets de protection. Là je pense par exemple aux Gorges de l'Ardèche. Aux alentours des années 1920, il y avait un projet de barrage au niveau des gorges de l'Ardèche qui aurait noyé en grande partie, quasiment intégralement, Vallon-Pont d'Arc, qui est emblématique de l'Ardèche. Et c'est ce tourisme qui l'a protégé. Alors, c'est pour ça que c'est jamais tout noir, tout blanc. Et effectivement, comment réguler un petit peu un tourisme important qui peut avoir un impact ? Et d'un autre côté, c'est parce qu'il y a la valorisation à travers le tourisme que peut-être des élus, des responsables politiques vont prendre des décisions en faveur d'une politique qui permettra une amélioration de la qualité des eaux, surtout dans un territoire où l'importance de la baignade, de pouvoir faire du canoë, participe de l'économie. Donc c'est toujours ambivalent et c'est une question... où il faut faire preuve de nuance.
Forcément, tu as bossé avec des gens du parc national. Il et elles sont nombreux, nombreuses. Je pense à Ingrid ou encore à Yannick Manche, qu'on connaît bien sur cette antenne. Quel a été le rôle du parc dans cette aventure ? Est-ce que c'est un peu la caution scientifique de ton livre ?
Alors, on peut aussi citer Yann Dissac, etc. Voilà, on peut
et citer Yann Dissac, évidemment. Voilà,
contribuer à cet ouvrage. Et donc, ça faisait partie... du partenariat qui a été noué entre l'association Picasso, le parc national et moi-même donc, et c'était d'avoir une relecture technique sur les textes, notamment qui traitent simplement de l'écologie, de la faune, de la flore, et pour moi ça a été vraiment un soutien important de dire que voilà, j'étais dans la bonne voie, qu'il n'y avait pas de souci. Et je remercie aussi Ingrid, qui est la chargée éditoriale du parc, qui a été un appui vraiment... qu'à faciliter l'avancée du livre, dans la mesure où quand on écrit comme ça et on est sur un long projet, un projet au long cours, on a beaucoup de doutes, etc. Et régulièrement, elle me validait, et sa validation pour moi me permettait d'avancer. Voilà, donc je la remercie vraiment pour cet appui et ces encouragements et la confiance qu'elle m'a accordée.
Avec le nouvel ouvrage de Mathieu Mercier, Partez à la rencontre du versant méditerranéen, c'est paru aux éditions Arca. Merci à toi et longue vie à ce livre. À très bientôt. Bien,
merci, à bientôt.
Figure du parc.
C'est l'émission issue du partenariat entre le Parc national des Cévennes
et Radio Bartas. Partons à la rencontre de celles et ceux qui font le Parc national des Cévennes.